BFM Business, l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Erwan Maurice.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot. Au programme aujourd'hui, recruter de manière originale sur un terrain de handball, c'est ce que fait Lidl. Nous serons avec la DRH du groupe pour en parler. Dans cette émission, on répond aussi à vos questions avec nos avocats en droit du travail et avec vous Jeanne, bonjour.
Bonjour Erwan, aujourd'hui c'est une question sur le licenciement à laquelle va répondre l'avocate Sabrina Gapteni. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr.
Vous sentez-vous menacé dans votre travail par l'intelligence artificielle? On est allé à votre rencontre pour vous poser la question. Vous entendrez quelques réactions dans notre focus et l'analyse de nos invités à suivre. Sans oublier la carte blanche de Yannick Mercieris en fin d'émission qui va nous faire le classement des villes, les meilleures villes pour télétravailler. Merci d'être avec nous, c'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, le DRH de la semaine.
Lidl est partenaire de la Ligue féminine de handball à l'occasion d'un match de première division. Le groupe a encouragé les candidats à venir postuler directement sur le terrain, une façon originale de recruter. Bonjour Laetitia de Montgolfier.
Bonjour Erwan.
Bienvenue dans Happy Boulot, vous êtes la DRH de Lidl. Comment s'est passée là, cette session à la fois donc, de rencontre mais aussi de recrutement? L'objectif c'était de trouver des nouveaux profils.
Exactement, nous recrutons des directeurs de supermarché ou sur tout autre poste en supermarché et aussi en plateforme logistique. Donc on recrute directement dans les complexes sportifs. Ouais. On fait se rencontrer les recruteurs et les candidats directement sur le complexe sportif et ils participent à l'avant-match et ils, surtout recruteurs et candidats supportent l'équipe concernée pendant le match.
Ça, c'était la première fois que vous faisiez ça, une première édition de job dating. Qu'est-ce qui vous a incité finalement à tenter cette manière quand même assez originale et peu conventionnelle de recruter, d'aller à la rencontre des candidats?
Alors, nous sommes partenaires de la Ligue féminine de handball. Donc, c'était finalement en échange avec la Ligue que nous avons décidé d'aller plus loin dans ce partenariat en mettant en place cet événement.
Événement qui s'appelle Recrute et Match.
Recruter match, absolument. Et le principe, c'est de recruter de manière conviviale et aussi sous l'angle des valeurs du sport. Ça nous permet aussi de valoriser les équipes féminines de handball et surtout de mettre en avant leur performance. Ouais. À cette occasion-là, on insiste aussi sur nos partenariats avec les clubs locaux et ça participe de notre ancrage territorial.
Côté RH, quand même, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse dans cette émission, j'imagine que ça facilite ça décoince un certain nombre de candidats, peut-être de recruteurs aussi. On échange d'une manière un peu plus informelle, non, que quand on est dans un bureau derrière une table, on attend son tour. Là, le cadre fait que l'ambiance est aussi différente, non?
C'est aussi ce qu'on recherche, en effet, de pouvoir mettre au même niveau les candidats et les recruteurs qui se rassemblent en général autour des valeurs du sport et de la passion pour le hand.
Et donc, c'est plus sincère ou pas dans les échanges?
C'est convivial. Ouais. C'est surtout, l'idée, c'est d'avoir un candidat qui soit à l'aise et qui se montre lui-même aussi avec, avec ce qu'il anime, et notamment le sport et le hand en particulier. Mm-hmm. Et c'est aussi l'occasion pour nous de lui faire découvrir finalement le handball féminin. Donc on manie le recrutement, la connaissance des métiers de Lidl, le hand et les équipes féminines.
Mais si on n'aime pas le sport, on pouvait quand même venir.
On peut quand même venir. Ouais. Et justement, l'occasion, c'est de vous faire aimer le sport.
C'est les valeurs du sport aussi chez Lidl. Enfin, est-ce que c'est des choses que vous véhiculez?
C'est
que
ce qu'on souhaite, en effet, véhiculer par ce type d'événement, les valeurs du sport et finalement l'approche de Lidl qui est aussi très empreinte de ces valeurs du sport.
Les valeurs de l'entreprise au-delà du sport chez Lidl, c'est quoi quand on veut rejoindre votre groupe?
C'est justement ce qu'on retrouve dans ce type d'événement, c'est la simplicité, le respect, c'est vraiment ces valeurs qui nous sont chères et qui sont autour aussi de l'efficience, de la performance dans le sport. Donc on retrouve beaucoup de ces valeurs dans le hand.
Laetitia de Montgolfier, DRH de Lidl, si on prend un peu de recul là, sur cet événement, qu'on parle un peu plus largement du recrutement, il y a du travail à faire pour améliorer cette phase de premier contact avec le candidat qui n'est pas toujours réussi. Est-ce que le fait de changer le cadre, de faire ça typiquement sur un terrain de sport, ça peut être une manière d'innover et d'avoir des meilleures relations plus rapidement.
Alors, innover certainement, et c'est vraiment l'objet de Recruter Match, c'est de pouvoir essayer, expérimenter de nouvelles approches du recrutement, viser d'autres profils peut-être. Après, c'est aussi l'approche du recruteur que de mettre le candidat à l'aise et au contraire qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Donc c'est aussi à nous, recruteurs, de mettre dans les bonnes conditions le candidat dans le cadre d'une recherche d'emploi.
Laetitia de Montgolfier, DRH de Lidl, il nous reste une minute pour mieux savoir quel manager et quel DRH vous êtes. Marianne vous amène tout de suite la boîte la du boîte. DRH. Bah oui, c'est la petite séquence de fin d'interview. Je vous invite à piocher un papier.
Alors,
une phrase à compléter et il faut répondre spontanément surtout, ne pas trop réfléchir.
Mm-hmm.
Je vous laisse nous la lire.
Dans ma boîte, oui. La déconnexion.
Ah.
La déconnexion, c'est naturel.
Ouais, aussi
possible.
Bien. Ouais, alors possible.
Demander, souhaiter, donc, attendu.
C'est-à-dire, vous avez mis une politique là-dessus ou...
Bien sûr.
Ouais.
Oui, oui, il y a
une... Après 18-19 heures,
quand on rentre chez soi. Qui s'applique dans l'entreprise, oui.
Très bien. Bon, allez, on en prend un dernier. dans ma boîte, chez Lidl.
Dans ma boîte, pour régler un conflit... J'essaye de comprendre la situation, de proposer des solutions et surtout, j'instaure le dialogue en
ça
permanence.
Ça arrive parfois ?
Forcément, dans des situations du quotidien, ça peut arriver. Mmh. Ou même voilà, dans d'autres situations professionnelles, de manière générale, ça arrive.
Ça va dans votre bureau ou c'est vos équipes RH qui vous déléguez globalement ?
Alors, l'idée, c'est qu'on anticipe ce type de situation donc avant qu'elle ne se produise. Donc, le dialogue, pour moi, permet en permanence de régler les problématiques du quotidien, donc avant que ça n'arrive au conflit, évidemment.
Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, Laetitia
Montgolfier,
DRH de Lidl. Merci d'avoir été avec nous tout de suite. On vous retrouve, Jeanne, pour appeler notre expert, les questions d'auditeurs.
Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
Et on joint tout de suite l'avocate Sabrina Gapteni, fondatrice d'Avocat Juste. Pour répondre à cette question, Sabrina, que faire si l'employeur tarde à envoyer les documents de fin de contrat suite à un licenciement ?
La loi ne prévoit pas expressément de délai dans lequel l'employeur doit envoyer les documents de fin de contrat à son salarié. D'ailleurs, il n'est même pas tenu de les envoyer. On dit que les documents sont quérables et non portables. L'employeur peut donc parfaitement se contenter de les faire tenir à la disposition du salarié. Pour obtenir ces documents de fin de contrat dans les meilleurs délais, le salarié a intérêt, dès l'instant où il reçoit la lettre de notification de son licenciement, à envoyer un courrier recommandé avec accusé réception à son employeur, en lui demandant la remise de ces documents, en lui précisant qu'il se tient à sa disposition pour les récupérer en main propre s'il le fallait. Et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, le salarié a intérêt de faire la liste des documents qu'il n'a pas reçus. Ce courrier apportera la preuve que le salarié a fait le nécessaire et que l'employeur ne s'est pas exécuté. Le salarié pourra donc aller plus loin et saisir le Conseil des prud'hommes pour faire valoir ses droits. Car la remise tardive des documents de fin de contrat lui cause nécessairement un préjudice qui mérite d'être indemnisé.
Merci Sabrina Gapteni. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le focus RH.
On reparle d'intelligence artificielle tout de suite dans notre focus. Elle bouscule pas mal le monde du travail. On va essayer de voir dans quelle mesure elle affecte l'évolution des compétences des salariés. Avec nos invités que j'accueille, Caroline Montaigne, bonjour.
Bonjour.
Rédactrice en chef adjointe à Harvard Business Review. Et avec nous également, Cécile Dejoux, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes professeure des universités au CNAM et à l'ESCP, directrice de l'Observatoire des transformations managériales et RH. Mais d'abord, pour un peu mieux se rendre compte aussi de ce que provoque l'intelligence artificielle chez vous, qui nous regardez, qui nous écoutez, on est allé à votre rencontre avec Astrée Olivier pour vous demander si vous vous sentez menacé par l'IA. Voici ce que vous nous avez dit.
Non, dans nos métiers terre-à-terre de production, je ne pense pas que ce soit une menace. Après, peut-être sur les aspects de dégustation, d'analyse des vins.
Une menace, un peu, mais il y aura toujours quelqu'un qui doit être en charge de...
faire la vérification sur la qualité des traductions.
Et mon métier, c'est mon corps. À moins que des gens viennent voir des hologrammes sur un plateau et que ça fasse plaisir aux gens. En l'occurrence, pour l'instant, j'ai pas l'impression.
On s'aide de l'IA, justement, pour aller un petit peu plus loin encore dans la créativité, régénérer des nouveaux contenus.
Moi, j'ai l'avantage de parler chinois, anglais, français. Donc, du coup, ça m'aide dans le business. Ça peut être un danger pour donner les atouts que d'autres n'ont pas.
Bon, tout le monde n'est pas trop inquiet, en tout cas autour des locaux de BFM, où Astrée Olivier est allée à la rencontre des passants, des travailleurs. Ça dépend des industries, j'ai l'impression. Certains se disent, oui, ça peut être une menace, bon, sans être trop plus inquiet que ça. D'autres se disent, non, pas du tout. Caroline Montaigne.
Oui, et en fait, je suis assez étonnée, pour être tout à fait sincère, parce que effectivement, même sur les métiers manuels, il y a un vrai risque sur l'IA, et justement, toute l'automatisation des tâches, l'IA, etc., les nouvelles technologies ont d'abord impacté les tâches répétitives et manuelles. Et aujourd'hui, c'est un peu la revanche des cols bleus, parce que ça atteint aussi les métiers cols blancs, justement, ces salariés du savoir, qu'on appelle ainsi, et parce que effectivement, on touche à des travaux intellectuellement plus sophistiqués. Oui. Comme le codage, la recherche, l'écriture même. Donc globalement, tout le monde est potentiellement impacté demain.
Mais c'est intéressant ce que vous dites sur les travaux manuels et Cécile Dejoux, j'aimerais aussi avoir votre avis là-dessus. C'est quoi ces témoignages? C'est qu'on ne se rend pas compte finalement de ce que l'intelligence artificielle va faire dans nos vies, dans notre quotidien, dans notre travail.
Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait on peut le comparer au numérique. Quand on a eu la révolution du numérique, on avait le téléphone, donc c'était physique, on voyait ce que c'était. L'IA, c'est un peu invisible,
c'est abstrait.
Complètement abstrait, on l'a dans notre téléphone, mais on ne sait pas qu'en appuyant sur une photo, en fait derrière il y a de l'IA. On ne sait pas qu'en appuyant sur simplement un petit micro, derrière il y a de l'IA. Donc pour revenir vraiment et aller dans le sens de ce que dit Caroline, tous les métiers, on le sait, vont être impactés par l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut maintenant, c'est s'y préparer avec la conscience, avec la volonté de se former pour pouvoir être prêt.
Bon, ça, c'est le travail, on va dire, des managers et des RH aussi. C'est à eux de prendre ça en charge. Est-ce qu'on le fait déjà ou on est en retard?
Alors, on n'est pas en retard, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'être dans le bon rythme. Donc, les managers, ils sont là pour penser les compétences de demain et ils sont là pour aider les collaborateurs en temps réel pour qu'ils soient aux bonnes compétences au bon moment. Et l'IA, eh bien, ça va ouvrir des champs extraordinaires, des champs des possibles, sur la créativité, sur l'ensemble de la productivité. Et ça va nous donner aussi du temps. La question, c'est ce temps. À quoi est-ce qu'on va l'utiliser? Est-ce qu'on va l'utiliser à se former ou à aller encore plus vite? Et ça, c'est tout l'intérêt des études que font bien sûr Harvard Business Review pour nous donner des réponses.
Il y aura des choix à faire. Au Harvard Business Review, Caroline Montaigne, c'est dans ce numéro
Dans ce numéro qui est en kiosque et justement, on l'a appelé ça la métamorphose des compétences parce qu'aujourd'hui, malgré tout, pour rebondir et pour tempérer un peu ce que vous disiez, les entreprises investissent beaucoup dans la formation continue. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut changer d'état d'esprit. Il ne s'agit pas seulement de faire acquérir aux salariés de nouvelles compétences. Il faut pouvoir utiliser ses compétences pour se reconvertir, changer de poste et partir du principe que finalement cette reconversion professionnelle sera une suite logique, un passage obligé et naturel de toute carrière.
Donc il faut anticiper.
Oui, il faut anticiper en tant que salarié, c'est-à-dire se dire que évidemment le métier qu'on a aujourd'hui ce sera peut-être pas celui de demain, mais surtout les entreprises doivent prendre en charge le sujet pour à la fois attirer les salariés et les retenir et leur proposer des vrais parcours, non pas d'acquisition de compétences pures, mais de reconversion possible vers d'autres postes. Et des entreprises le font déjà d'ailleurs.
Oui, mais est-ce qu'elles sont assez nombreuses à le faire? C'est quoi? C'est les grands groupes aujourd'hui qui ont conscience de ça, non? Davantage?
Alors, j'aimerais bien d'ailleurs que vous vous appuyiez en fait, certaines grandes entreprises, oui, moi les exemples que j'ai pour le coup, c'est effectivement des grandes entreprises. Par exemple, Amazon a mis en place, est assez novateur sur le sujet, ils ont mis en place une Machine Learning University où ils ont permis à des milliers de salariés qui ne connaissaient rien à l'IA de devenir experts sur le sujet. McDonald's, par exemple, pour ses salariés des restaurants, a mis en place une application qui cartographie les compétences acquises par les salariés et qui fait des liens avec les carrières possibles à la fois dans l'entreprise mais dans d'autres secteurs.
Donc ce sont des grands groupes américains, si je comprends bien.
Alors pas que. Donc les grands groupes américains, on le sait, donc ils ont les moyens et puis ils ont quand même beaucoup d'avance sur la technologie, les ressources humaines et les compétences. Donc en fait, ils nous donnent des pistes et ça c'est intéressant. Nous, ce qu'on a pu voir au sein du laboratoire de transformation managériale et RH, c'est qu'en fait, les salariés utilisent l'IA sans nécessairement le dire dans l'entreprise et le dire à leur employeur et à leur manager. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, il faut se former à la fois pour être IA compatible, ouais. apprendre à prompter, apprendre à synthétiser, apprendre à utiliser des outils. Hein. On a entendu parler il y a un an de ce fameux outil ChatGPT, il y en a plein d'autres. Mais il faut également, eh bien, en équilibre, eh bien, développer d'autres compétences parce que l'IA va nous voler et va tuer certaines de nos compétences comme la mémoire, l'attention. Et là, il faut se centrer sur ce qu'on appelle le CARE, les compétences de centrage, pour avoir un équilibre et rester employable. Être IA compatible, développer le CARE.
Et ça, c'est la mission, encore une fois, des ressources humaines, alors, des directions
pas
d'entreprise.
Pas seulement, justement. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne doit plus être circonscrit au département des ressources humaines, parce que justement, c'est un impératif stratégique et ça doit être pris en charge par toute l'entreprise, mmh. au niveau de la direction, mais surtout au niveau des managers. C'est de la responsabilité managériale.
Donc, il faut les former aussi, les managers.
Oui, et surtout, vous les impliquer et leur dire qu'aujourd'hui, c'est de la responsabilité managériale que de faire monter en compétences leurs équipes. Ouais. Et Amazon, toujours pour citer l'exemple d'Amazon, maintenant, quand ils doivent promouvoir des leaders, ils le font avec une évaluation, une grille d'évaluation, dont une question. Qu'est-ce que vous avez fait pour faire monter en compétences votre équipe et pour la faire évoluer? Et de plus en plus, il y a des critères très précis, à la fois d'objectifs et d'évaluation des managers sur ces questions-là.
Mais là, on est encore beaucoup dans des groupes tech, non? Ce sont eux qui prennent conscience qu'il faut évoluer sur ces sujets-là, faire évoluer les profils, parce qu'ils vont être les premiers à être mangés par l'intelligence artificielle. Dans les PME françaises, TPE, on est encore très loin à ces sujets, soyons clairs.
Dans les PME, mais dans le secteur de l'art, dans le secteur de la vente, dans le secteur du marketing, de la communication, on a bien sûr des solutions d'intelligence artificielle qui révolutionnent les métiers. Aujourd'hui, les artistes, eh bien, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour être challengés, pour avoir un double, pour avoir quelque part un effet miroir et créer différemment. Aujourd'hui, un commercial, qu'il soit dans une PME ou dans une grande entreprise, eh bien, il va avoir tout de suite, grâce à un système d'IA, la descriptif des attentes de son client et comment son client peut, à terme, acheter ou pas sa solution. Oui. Et donc, il va avoir des systèmes d'alerte, il va avoir des informations. Donc, je crois qu'il ne faut pas croire que ce sont que des grands groupes. C'est à tous les niveaux, dans tous les métiers. Et il faut réfléchir à comment l'IA va automatiser, va aider à développer la créativité et va permettre surtout à gagner du temps.
Je vais donner deux chiffres, Caroline Montaigne, qu'on retrouve dans votre dernier numéro du Harvard Business Review, avec un gros dossier donc, sur la métamorphose des compétences avec l'intelligence artificielle. L'IA va supprimer 14% des emplois dans le monde et en transformer 32%. Attention, c'est une prévision de l'OCDE qui date de 2019. C'est-à-dire avant même qu'on commence à parler de ChatGPT, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est peut-être même au-delà de ces chiffres-là. Il faut en prendre la mesure.
Et potentiellement, en fait, en 2019, l'OCDE estimait que ça allait concerner 1 milliard d'individus, de salariés. Donc aujourd'hui, potentiellement beaucoup plus finalement. Et actuellement, on estime que les compétences perdent la moitié de leur valeur en moins de 5 ans, voire en moins de 2 ans et demi dans certains secteurs technologiques. Et donc, ça ne concerne pas que les entreprises tech. Par exemple, un grand constructeur automobile, à un moment donné, réunit ses ingénieurs diesel en leur disant, demain, vos compétences, j'en aurai plus besoin, c'est la fin du diesel. Donc, voilà un programme pour assurer la pérennité d'un autre emploi, la sécurité de l'emploi, et vous assurer un autre job, en fait. Ouais. Donc, ça ne concerne pas que la tech. Finalement, tous les secteurs sont concernés.
Vous donnez cet exemple très intéressant dans l'automobile, il faut effectivement que les entreprises investissent dans la montée en compétences et à des niveaux, j'imagine, importants. On dit souvent que dans la tech, l'Europe est un nain face aux Chinois, face aux États-Unis. Il va falloir mettre les moyens aussi pour pouvoir faire monter en compétences, non ?
Oui, alors ça, c'est un vrai sujet.
Cécile Dejoux.
Oui, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il faut savoir vers quel type de compétences aller. Le gros sujet, c'est...
Parce que là, on avance quand même à tâtons, bien souvent.
On ne sait pas ce que demain nous réserve et quel type de compétences vont être plus humaines ou plus automatisables. Ça, c'est tout l'enjeu des, bien sûr, ressources humaines, mais aussi des managers. Et il faut des signaux faibles qui nous viennent du terrain. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est en continu qu'il va falloir apprendre à se former. Et il faut se former sur des toutes petites tâches et des tout petits sujets. En gros, on est à l'heure du portfolio où on doit avoir plein de compétences différentes dans des outils, dans des capacités à réfléchir, dans des capacités à faire et dans des capacités à voir des nouveaux domaines. Ça peut être le design, ça peut être autre chose. Donc, on est vraiment sur du transverse et pas que sur un métier d'expertise. C'est
ça. Parce que, encore une fois, ce sont ceux qui ont compris ça et qui ont investi le plus tôt qui seront les plus compétitifs, non, au bout du compte, encore une fois.
Il n'est jamais trop tard. L'important, c'est de commencer, c'est le chemin. L'important, important, c'est vraiment d'être conscient. Et aujourd'hui, il y a énormément d'articles, il y a énormément de communication sur le sujet. Et je crois que qu'on soit patron de PME, de start-up ou de grands groupes, on a bien compris que l'IA allait tout changer.
Un mot de conclusion pour vous, Caroline Montagne.
Oui, alors moi je pense que c'est un impératif stratégique pour les entreprises parce que ça va leur permettre notamment de développer des savoir-faire en interne pour pallier parfois un manque de compétences sur le marché. Mmh. Et donc, c'est important qu'elles prennent ça en compte et pas seulement pour faire de la relation client ou la logistique, mais pour justement faire monter en compétences et reconvertir, si besoin, leurs salariés dans certains métiers.
Et tout ça et bien d'autres sujets à retrouver donc en kiosque dans le dernier numéro du Harvard Business Review. Sans tout énumérer, mais qu'est-ce qu'on a d'autre dans ces dossiers-là?
Sur le même dossier?
Non, en dehors de l'intelligence artificielle, on parle de quoi?
On parle aussi de comment établir le bon storytelling en tant qu'entreprise pour créer du changement. On parle aussi de, surtout encore sur l'IA, comment finalement l'IA va être perçue par à la fois les consommateurs et les salariés.
Beaucoup d'IA, c'est au cœur de tout.
Parce que là, il y a effectivement un côté aussi marketing aussi qui est intéressant. Merci. Et qu'on n'a pas abordé.
On merci. Ah bah non, mais
le côté
reviendrez.
Que RH, mais il
oui,
y a un côté marketing,
y en aura sûrement aussi d'autres
consommateurs qui est intéressant.
Dans les prochains numéros à retrouver donc en kiosque, sur abonnement aussi?
Sur abonnement et en kiosque pendant 2 mois.
Merci beaucoup Caroline Montaigne, rédactrice en chef adjointe à Harvard Business Review, et Cécile Dejoux, professeure des universités au CNAM à l'ESCP, directrice de l'Observatoire des transformations managériales et RH. Merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche.
Happy Boulot, carte blanche.
Avec Yannick Merciris, cette semaine directeur de The Daily Swell, qui nous fait le classement des meilleures villes pour télétravailler.
On a tous déjà rêvé de télétravailler loin de chez soi. Mais le problème, c'est où? Bah, ça tombe bien, j'ai le classement des meilleures villes pour ça. Et donc, la meilleure ville pour télétravailler est... Attendez, avant, faut que je vous explique comment ça marche vraiment. Un index a été créé par une plateforme de télétravailleurs. Là-dedans, on y retrouve par exemple le coût de la vie, les infrastructures ou l'accès au logement. Et tout ça, c'est basé sur des chiffres très précis de l'ONU, de l'OMS ou encore de l'Union européenne. Et donc, le classement des meilleures villes pour télétravailler est... En 3, Prague. En 2, Dubaï. Et en 1, Barcelone, en Espagne. Et là, vous dites, mais où est la France? Eh bien, seulement 3 villes françaises font partie de cet index. Paris, Toulouse et Nantes. Désolé les autres. Dans ce classement, la ville la mieux notée sur le tourisme, c'est Tokyo. La ville la mieux notée en termes de bonheur, c'est Copenhague. Et enfin, celle qui est le mieux notée en termes de taxes, c'est-à-dire pas grand-chose, eh bien, c'est Dubaï. Allez, maintenant dites-nous dans les commentaires dans quelle ville vous aimeriez bosser.
Happy Boulot, le labo RH.
Et on vous retrouve, Jeanne, pour notre plus grand plaisir en 4 minutes pour le Labo RH aujourd'hui avec notre invité qui met en place donc un nouvel outil pour les RH.
Oui, nous sommes avec Nicolas Lepère. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable R&D d'Ignition Programme, une agence de recrutement et de formation, et vous lancez Scan RH, un outil d'audit pour les DRH en ligne et totalement gratuit. Qu'est-ce qui fait sa spécificité?
Sa spécificité, c'est qu'on mesure les pratiques RH de chacune des boîtes. Et à partir de ça, on arrive à les positionner en termes de performance RH. Si je mets en place beaucoup d'actions qui favorisent l'engagement, j'aurai probablement un niveau d'engagement important des salariés.
Le DRH peut, ou l'équipe RH peut se retrouver face à un bilan que vous faites avec votre scan, parfois inattendu. On se dit, moi je pensais que j'avais mis en place les bonnes pratiques, et en fait non, d'après ce que vous nous dites chez Ignition, il y a encore plein de trucs à faire.
Absolument, ouais. C'est d'ailleurs l'objet de cet outil, c'est d'abord diagnostiquer pour ensuite préconiser et agir. Et en fait, la deuxième partie de l'outil, c'est de lister les actions prioritaires qui peuvent être mises en place pour les DRH ou pour en fait l'ensemble des équipes, y compris les managers, pour améliorer l'engagement des salariés, la performance individuelle, la performance collective, etc.
Donc une fois qu'on a fait le bilan avec le scan RH, vous proposez des solutions, vous accompagnez les entreprises pour appliquer ce bilan ou...
Absolument. Point de départ, c'est vraiment aider les entreprises à diagnostiquer un certain nombre de choses, de lister les actions qui sont possibles, et puis de voir celles sur lesquelles nous, on peut intervenir. Alors, on intervient en accompagnement conseil, en formation, en développement, en structuration, mais il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas intervenir. Donc, parfois, il nous arrive de dire, ben, là, vous avez une vraie difficulté, il y a une vraie action à conduire, allez voir plutôt d'autres gens que nous.
Ouais. Ça va être quoi le type de questions auxquelles on va devoir répondre sur ce scan?
Alors, on va interroger les gens sur la fréquence et l'importance des formations en développement personnel qu'ils vont réaliser pour chacun des collaborateurs. On va les interroger.
J'imagine que parfois, il n'y en a pas. Il y a des boîtes où on n'en fait même pas, non?
Il y a des boîtes où on n'en fait pas. Et alors, parfois, on considère que ce n'est pas prioritaire. Peut-être que ça peut s'expliquer dans certaines boîtes. Hein. On n'est pas forcément dans une normativité où il faudrait forcément tout faire. Mais on sait aussi que lorsqu'on fait grandir les gens, on a un engagement plus fort, on a plus de performance, on a une meilleure capacité à travailler ensemble aussi.
Donc votre scan, il est adapté au profil de l'entreprise quand même? C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le même résultat en fonction qu'on est dans l'industrie ou dans l'administratif?
Alors, plus exactement, il permet un benchmark en fonction du type d'entreprise, à la fois le secteur et la taille d'entreprise. C'est-à-dire que les résultats qu'on aura, on va les comparer avec d'autres boîtes qui ont fait le même test, et en disant, je suis plutôt devant, je suis plutôt au milieu, je suis plutôt derrière.
Voilà. Et du coup, si c'est totalement gratuit, qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Est-ce qu'il y a une solution qui n'est pas gratuite ou tout est gratuit et vous
Alors, il y a une solution qui n'est pas gratuite, notamment l'accompagnement qu'on réalise.
Donc, c'est du freemium, c'est ça? On commence, on fait le test, on a le résultat, et là, on se dit, oulala, il y a du boulot, et là, on paye un service que vous offrez.
Exactement. Et puis, moi, j'ai un autre avantage en tant que chercheur, c'est que grâce à ça, je collecte de la donnée. Et donc, derrière, je peux avoir de la connaissance qui me sert à la fois à mieux comprendre et à mieux préconiser. Donc, l'idée de faire une étude permanente sur un panel récurrent favorise évidemment la récupération de données.
Et rapidement, typiquement, sur quel sujet vous allez pouvoir accompagner les entreprises? Quelles sont les demandes les plus fortes?
Alors, une des demandes les plus fortes aujourd'hui, c'est d'arriver à faire que les équipes aient un niveau de plaisir, d'engagement et de fierté suffisamment fort. Vous savez que la question du sens, alors récurrente, vous l'avez abordée dans plein d'émissions.
Bien sûr.
Et ça, très souvent, les managers, qui sont plutôt des bons techniciens sur leurs sujets managériaux ou plutôt business, ils ne sont pas forcément bons là-dessus. Et donc, on les aide à identifier ces pistes-là.
Tout ça est accessible en ligne?
Absolument.
On se connecte sur le site d'Ignition?
Absolument.
Et on va sur le scanner H?
Tout à fait.
Faites le test et dites-nous aussi sur happyboulot@bfmbusiness.fr si vous avez été surpris du résultat. Merci beaucoup. Nicolas Leperc, responsable RH d'Ignition Programme. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Jeanne. On se retrouve la semaine prochaine. Vous retrouvez cette émission en replay, en podcast. Abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. Beaucoup de sujets encore, vous allez voir. Beaucoup d'invités. On va décrypter tout les actualités de notre secteur sur BFM Business. D'ici là, soyez heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.